Vous écoutez, on lit pour vous.
Aller au resto en fauteuil roulant, un parcours du combattant, un texte d'Esther Normand paru le 12 février 2025 dans RCI. Escalier devant la porte d'entrée. Vestibule étroit. Accès aux toilettes difficiles ou tout simplement impossible. Même en 2025. Une simple visite au restaurant représente souvent un véritable parcours du combattant quand on se déplace en fauteuil roulant, a pu constater la facture. Plongée dans ses souvenirs, Linda Gauthier regarde les photos d'une femme qui danse avec son partenaire. Cette femme, c'est elle, avant que la sclérose en plaques ne bouleverse sa vie. Aujourd'hui, elle est en fauteuil roulant. Ça m'a fait plus mal arrêter de danser qu'arrêter de marcher. Ma passion, je l'ai transférée sur l'activisme. Linda Gauthier, cofondatrice du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIQ, elle dénonce le manque criant d'accès aux restaurants pour les personnes à mobilité réduite. Car, encore aujourd'hui, les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant se butent souvent à plusieurs obstacles lorsqu'elles décident de visiter ce type de commerce. Pourtant, en vertu du Code de construction du Québec, les bâtiments construits après 1976 doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Une exigence qui ne s'applique pas aux édifices construits avant cette date. Mais comment savoir si un restaurant est accessible aux personnes à mobilité réduite ou pas? Celles qui souhaitent sortir manger dans la région montréalaise consultent le site Resto Montréal. Sur les 8600 restaurants qui y sont annoncés, moins de 10% affichent la mention « accès fauteuil roulant ». Avec Linda Gauthier, la facture est allée visiter 6 restaurants qui seraient accessibles si l'on se fie à Resto Montréal. Résultat, 5 d'entre eux n'offrent pas l'accessibilité universelle, un concept voulant que toute personne, quelles que soient ses capacités, puisse utiliser de façon autonome des services offerts à l'ensemble de la population. Les obstacles que nous avons remarqués, des marches à monter devant la porte qui empêchent carrément les personnes en fauteuil roulant d'entrer, ou encore des toilettes situées à l'étage ou au sous-sol, et aucun ascenseur dont l'accès est trop restreint pour y accéder en fauteuil roulant. Resto Montréal a affirmé à la facture qu'avec des milliers de restaurants répertoriés, nous mettons tout en œuvre pour maintenir les informations à jour, mais des inexactitudes peuvent parfois se produire. Une police de l'accessibilité universelle demandée. Selon Linda Gauthier, le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, doit légiférer pour que l'accessibilité universelle soit obligatoire dans tous les restaurants. Il faudrait qu'il impose des mesures qui aient plus de mordant, soutient-elle. Ce n'est pas tout d'entrer dans le commerce, explique-t-elle. Encore faut-il pouvoir se déplacer à l'intérieur et avoir accès aux toilettes. On s'organise pour ne pas trop boire avant de partir et un coup sur place, de peur d'avoir trop envie. Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, CAPVISH, réclame lui aussi une loi qui a des dents et davantage de surveillance. Ce serait le fun qu'il y ait des inspecteurs qui vérifient la conformité, affirme-t-il. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de police de l'accessibilité universelle au Québec. Il devrait y en avoir. Les gens du milieu veulent voir des inspecteurs qui ne répondent pas seulement à des plaintes, mais qui s'assurent que les restaurants sont réellement accessibles. Une brigade mise sur la sensibilisation. La brigade du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, CAPVISH, fait face au même problème à Québec. Son arme, la sensibilisation. L'an dernier, la brigade a visité plus de 200 restaurants pour faire valoir l'accessibilité universelle. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question : si je vais quelque part, Est-ce que je vais être bon pour circuler? Est-ce que je vais être bon pour aller à la salle de bain? Beaucoup de gens s'empêchent de sortir à cause de cela, dit Michel Dubé, partenaire de la brigade CAPVISH. C'est pas normal, renchérit son partenaire Reynald Pelletier. La facture a accompagné la brigade dans l'une de ses interventions. Les problèmes relevés dans le restaurant visité n'étaient pas majeurs. Quelquefois, c'est juste une question d'aménagement, explique Reynald Pelletier. Ce sont des petits gestes qui font une grande différence dans la vie de bien des gens. Le directeur général du restaurant en question, Imad Razouk, a confirmé à la facture qu'il allait apporter des changements. On ne fait pas ça pour la charité. Des personnes qui viennent manger dans le restaurant, ça facilite leur vie, puis ça nous amène plus de clients. Il a réalisé qu'il y avait un marché à conquérir. Plus de 3 millions de Canadiens, âgés de 15 ans et plus, ont une incapacité liée à la mobilité, et ce nombre augmente sans cesse avec le vieillissement de la population. L'accessibilité, moins chère qu'on le pense. Le directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, Daniel Jean, explique que son organisme a déposé l'an dernier un rapport sur l'accessibilité des petits bâtiments. Le constat? Sur 305 petits bâtiments à Montréal, à Québec et à Saguenay, pas un seul ne respecte l'ensemble des 57 critères minimaux d'accessibilité déterminés par l'Office. Monsieur Jean défend l'idée qu'adapter un commerce, c'est pas une fortune. Avec les subventions, ça pourrait coûter autour de 40 $ par jour sur une période de 5 ans pour attirer une clientèle qui va augmenter mes revenus. L'architecte Isabelle Cardinal de Société Logique cherche depuis 10 ans des solutions pour que les commerces dans les vieux bâtiments soient accessibles. Elle aussi voudrait que Québec force la main aux restos dans les bâtiments existants tout en étant flexible pour leur permettre de se conformer. Actuellement, le code du bâtiment est très strict, déplore-t-elle. Il y a une façon de faire les choses, puis, aussitôt qu'on ne peut pas répondre à cette exigence-là, on n'est pas tenu de le faire. Pourtant, dit-elle, il y a beaucoup d'allègements possibles, mais qui ne sont pas étudiés parce qu'au départ, on est disqualifié par une exigence et on ne fait rien. L'architecte cite en exemple un commerce qui a une courte pente devant sa porte d'entrée et qui n'est donc pas conforme au code de construction, mais qui, selon elle, fait très bien l'affaire. Le ministre du Travail interpellé. D'après plusieurs intervenants du milieu, la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, devrait faire pression sur le ministre Jean Boulet pour qu'il intervienne. « Il ne m'appartient pas de dire des choses au ministre », estime le porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, Sylvain Lamotte. Il y a des comités qui font des réflexions. Il y a des solutions qui sont possibles sans nécessairement passer par le changement réglementaire ou le changement législatif. Il indique que des nouveautés seront peut-être proposées, mais qu'il n'a pas de boule de cristal. Le ministre Jean Boulet a refusé de parler à la facture. Toutefois, son attaché de presse nous a écrit « Nous sommes pleinement conscients que l'amélioration de l'accessibilité des infrastructures est essentielle. » Cependant, elle a ajouté que cela peut représenter un coût important pour les propriétaires. C'est pourquoi nous cherchons à trouver un équilibre raisonnable dans l'application de nouvelles normes. En attendant que Québec intervienne, Linda Gauthier prend les choses en main. La seule façon qu'on a trouvée, c'était avec des poursuites individuelles auprès de la Commission des droits de la personne, dit-elle. En vertu de la Charte des droits et libertés du Québec, un restaurant doit accorder aux clients un accommodement raisonnable sans quoi il s'expose à des sanctions, à moins qu'une contrainte excessive l'en empêche. On n'ira pas taper sur quelqu'un si on se rend compte que ce n'est pas faisable, dit Linda Gauthier. On n'est quand même pas des tyrans, là. Mais, tu sais, des endroits où la faisabilité est évidente, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ils ne sont pas toujours accessibles. Note de la rédaction. Je suis pas tanné de me battre pour nos droits, conclut-elle. On va continuer. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais on va continuer. C'était « Aller au resto en fauteuil roulant, un parcours du combattant », un texte d'Esther Normand paru le 12 février 2025 dans RCI.
La persévérance scolaire se bâtit dès la petite enfance, un texte de Jacinthe Lafrance, paru le 10 février 2025 dans Le Nouvelliste. Pour 89 % de la population québécoise, l'éducation est une priorité et la société doit en faire davantage pour soutenir la persévérance scolaire. Citation : Que nous soyons un parent, un membre de la famille, un enseignant, un intervenant, un ami, un employeur, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons individuellement le pouvoir et le devoir de faire plus. Fin de citation, a affirmé Mélanie Chandonnet, directrice générale de la Table régionale de l'éducation de la Mauricie, TREM, lors du lancement régional de Journée de la persévérance scolaire. Cette priorité accordée à l'éducation, c'est l'un des constats du sondage Léger réalisé en décembre dernier pour le Réseau québécois pour la réussite éducative. Cette étude a interrogé 1567 personnes de 18 à 59 ans pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Ces résultats ont donné le coup d'envoi à cette semaine de sensibilisation. Le lancement régional des Journées de la persévérance scolaire a été l'occasion d'entendre divers intervenants exposer leur propre manière de participer à la réussite éducative. Ceux-ci provenaient du milieu municipal de la TUC à celui des services à la petite enfance, en passant par le milieu communautaire comme les maisons des jeunes et, bien sûr, les établissements scolaires. Citation : On était vraiment heureux d'aller chercher des intervenants qui viennent de la TUC, parce que le taux de décrochage à la TUC, c'est quelque chose qui m'inquiète. L'accès aux études supérieures y est plus difficile parce qu'ils sont plus éloignés du centre urbain. On peut voir les différentes stratégies qu'ils mettent en œuvre pour augmenter le taux de diplomation. Fin de citation, souligne Mélanie Chandonnet. Le conseiller municipal Michel Pronovost s'est fait le porte-parole de la ville à titre de responsable du volet scolaire et du dossier jeunesse. La mise en valeur des emplois disponibles dans la région permet d'orienter les jeunes vers des programmes de formation pertinents pour eux, souligne-t-il. Certaines formations collégiales y sont d'ailleurs offertes localement, en collaboration avec le cégep de Shawinigan. Sous la forme d'un talk-show animé par Félix-Anne Chesnay et Stephen Bilodeau, respectivement des étudiants du secondaire et du collégial, la matinée de lundi a réuni une centaine de partenaires de la TREM à Shawinigan dans le secteur grand-mère. Viser la persévérance dès la pouponnière. Dès la petite enfance, on commence déjà à construire les fondations de la persévérance. C'est ce dont témoigne Karine Tessier, directrice d'installation au sein du CPE « L'univers m'amuse et m'éduque » à Trois-Rivières. Citation : Dès le début de la fréquentation de l'enfant au CPE, on commence à travailler tous les prérequis relatifs à la persévérance. Fin de citation, indique Karine Tessier. Cela se met en pratique dès la pouponnière et en partenariat avec les parents. L'enfant doit sentir qu'on a confiance en ses capacités. Le développement de liens de confiance qui soient chaleureux avec le personnel éducatif viendra donner tout son sens aux gestes d'encouragement qu'il recevra de leur part. Et ce, en favorisant l'inclusion des tout-petits qui présentent toutes sortes de besoins spéciaux d'ordre éducatif ou socio-affectif. Citation : Si on construit avec l'enfant des relations significatives, ça va lui donner confiance dans ses moyens. Fin de citation, indique Karine Tessier. Citation : On veut développer l'estime de soi, ce qui est très important, et on veut que l'enfant vive des expériences stimulantes au CPE. Fin de citation, souligne-t-elle. Citation : Le rôle de l'adulte, c'est de favoriser son effort. Fin de citation. Mettre l'accent sur la démarche plutôt que sur les résultats en proposant à l'enfant des défis à sa mesure, voilà une approche qui vient solliciter ses propres forces. Par exemple, si le bambin a réussi à enfiler sa chaussure, on l'encourage à faire de même avec la deuxième. Sinon, on félicite son effort dans ses tentatives de se chausser seul. Citation. On veut éveiller la stimulation intrinsèque des enfants à persévérer. Fin de citation. Soutient l'éducatrice. Tous les outils qui apprennent aux tout-petits à réguler leurs émotions et à gérer leurs conflits sont aussi un socle pour la persévérance scolaire. Sans oublier le développement de l'autonomie afin de vivre la transition scolaire avec confiance. Citation. Tout ça, c'est des exemples de prérequis qu'on offre aux enfants pour construire leur petit coffre à outils et ensuite poursuivre leur cheminement vers le milieu scolaire. Fin de citation. La confiance se nourrit dans les relations. À l'autre bout de ce parcours scolaire, Mélanie Beaubien enseigne la psychologie du développement de l'enfant au Cégep de Trois-Rivières auprès d'étudiants en éducation à la petite enfance. Mélanie Beaubien appuie entièrement les propos de sa consœur. Citation. J'entendais parler de relations significatives et je pense que c'est vraiment la base. Si mes étudiants sont heureux, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité dans ma classe, ils savent qu'ils peuvent parler, qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils sont dans un climat de bienveillance. Fin de citation, propose l'enseignante. Celle-ci n'hésite pas à utiliser l'humour, à faire appel à des expériences vécues et à accorder une attention spéciale à chaque individu dans sa classe, notamment en mémorisant le prénom de ses étudiants. Citation. Ça passe par les relations. Proximité, attachement, estime de soi, les valoriser, prendre soin d'eux, les regarder, sentir ce qui ne va pas et dans ce qui va, les encourager. Fin de citation. Pour l'enseignante de niveau collégial, ces attitudes vont soutenir l'apprentissage et la persévérance chez les apprenants de tous âges. La TREM a développé plusieurs outils qui sont disponibles afin d'animer les journées de la persévérance scolaire. Cette grande campagne de sensibilisation à la réussite éducative a pour thème « Parce que la persévérance fait toute la différence » et se poursuit à l'échelle du Québec du 10 au 14 février. C'était « La persévérance scolaire se bâtit dès la petite enfance », un texte de Jacinthe Lafrance, paru le 10 février 2025 dans Le Nouvelliste.
Ferme chrysalide, cultiver l'inclusion. Un texte de Bernard Lepage, paru le 11 février 2025 dans L'Écho de Masquinongé. Œuvrant dans le réseau de la santé depuis plus de 25 ans dans la région de Montréal, Bruce Lapointe veut démarrer une ferme-école à Saint-Étienne-des-Grès, destinée aux personnes de 16 à 29 ans présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est sur les terres familiales situées sur le troisième rang à Saint-Étienne-des-Grès que le résident de Verchères entend établir la ferme Chrysalide. Le nom que portera la future exploitation agricole déjà enregistrée comme organisme à but non lucratif, OBNL. Je suis né là-bas et j'ai le goût de donner une chance à des gens. Le match de la vie est tellement rough qu'on ne peut pas se permettre de laisser du monde sur le banc. Et qui est-ce qu'on met de côté en tant que société? Les personnes âgées, mais surtout les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, réfléchit tout haut Bruce Lapointe. Se décrivant comme un TDAH non médicamenté réfléchissant 24 heures sur 24, il travaille sur son projet depuis près d'un an et voudrait entamer la construction de sa grange d'atelier dès cette année. L'homme a déjà recueilli l'appui du CIUS MCQ, de même que de Martin Caouette, titulaire de la chaire de recherche Autodétermination et handicap de l'UQTR. Celui-là même qui a travaillé sur le projet « J'ai mon appart » à Shawinigan. Au CIUS, l'intervenante m'a dit que je tombais à point avec mon projet. Il cherche justement des alternatives aux manufactures et aux grandes surfaces où sont généralement cantonnées les personnes déficientes intellectuelles en milieu de travail. Bruce Lapointe est également en contact avec un intervenant de l'École d'agriculture de Victoriaville, qui a développé un programme sur l'intégration des personnes autistes en milieu agroalimentaire pour les associer à la ferme Chrysalide qui servirait en quelque sorte d'incubateur agricole pour les producteurs de la relève. L'idée, c'est d'intéresser des finissants qui veulent démarrer une petite production agricole à venir le faire à Saint-Étienne-des-Grès. Comme nous sommes un OBNL, la location de la terre et des équipements serait à faible coût, mais en contrepartie, le producteur va se jumeler avec un jeune qui agirait comme apprenti dans les limites de ce qu'il peut faire. Il serait soutenu par un intervenant du CIUS, évoque Bruce Lapointe, qui voudrait diversifier le type de production dans le but de répondre aux multiples intérêts des jeunes. Déstigmatiser les différences. La ferme-école comporterait un volet agrotouristique en ouvrant ses portes au public dans l'objectif que la communauté entre en contact avec les producteurs et les élèves participants. Il faut déstigmatiser leurs différences, croit fermement Bruce Lapointe. Oui, il y a peut-être des problèmes d'élocution. Il ne comprend pas tout ce que tu dis du premier coup, mais si tu prends ton temps, puis tu fais ton bout de chemin, tu vas être capable de le comprendre. Puis lui aussi, il veut se faire comprendre, tu sais. Ferme Chrysalide prévoit lancer dans quelques semaines une campagne de sociofinancement sur La Ruche Québec pour récolter une partie des 150 000 $ nécessaires au démarrage du projet. L'argent servirait principalement à construire une grange-atelier de 24 par 36 pieds pour des casiers, cuisines, salles de bain, etc. La Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie a signifié son intérêt à nous appuyer, mais elle veut évidemment que d'autres partenaires y soient aussi associés. J'ai des entrepreneurs qui sont prêts à nous aider, de même que des producteurs agricoles dans la région. Ce projet-là coche toutes les cases, tant au niveau social, santé, développement durable, agriculture, santé mentale, que l'éducation et les jeunes, termine Bruce Lapointe, qui prévoit se consacrer à temps plein à la ferme Chrysalide dans quelques années, lorsqu'il prendra sa retraite du réseau de la santé. Qui est Bruce Lapointe? Natif de Saint-Étienne-des-Grès, Bruce Lapointe travaille depuis près de 30 ans dans le réseau de la santé dans la région de Montréal. Son visage vous est peut-être familier puisqu'il intervient occasionnellement dans les médias et il était la tête d'affiche de l'émission « Montréal sous surveillance » diffusée sur Canal D en 2021. Et l'automne dernier, Bruce Lapointe recevait une médaille de l'hommage au civisme du gouvernement du Québec pour avoir sauvé un homme de la noyade lors d'une excursion de pêche au printemps 2021. C'était « Ferme Chrysalide, cultiver l'inclusion », un texte de Bernard Lepage paru le 11 février 2025 dans l'Écho de Masquinongé.
Les coûts et les déplacements comme frein d'accessibilité au parasport. Un texte d'Éric Chouinard paru le 9 février 2025 dans Ici Québec. Malgré un engouement pour le sport adapté au Québec, les personnes en situation de handicap se heurtent à des obstacles de taille, notamment au chapitre des coûts et des enjeux de transport. Émile Dubois, un joueur de soccer en fauteuil roulant électrique, a dû se résoudre à lancer une campagne de sociofinancement pour pouvoir se procurer le fauteuil adapté qu'il lui faut pour progresser dans son sport. Le fauteuil électrique de Power Chair Soccer en question coûte près de 20 000 $. La chaise est plus puissante et elle est faite plus basse. Ça nous empêche de renverser puis de briser nos fauteuils électriques, explique le para-athlète de l'Association de soccer Chaudière-Ouest, ASCO. Le sport, qui existe depuis 2006, se pratique avec un fauteuil électrique conventionnel en y ajoutant un pare-choc, mais il est vraiment passé à la vitesse supérieure avec l'arrivée du fauteuil spécialisé, beaucoup plus performant. La chaise officielle pour les grosses compétitions, c'est la chaise qu'Émile veut avoir, fait une grosse différence dans le jeu. Ça devient plus vite, remarque son entraîneur Jean-Philippe Nadeau. Quand on va jouer à Montréal, tous les joueurs ont cette chaise-là, ajoute-t-il. Émile Dubois aimerait faire partie des équipes nationales et participer à la Coupe du Monde. « Tu ne peux pas espérer monter si tu n'as pas cette chaise-là », soutient son entraîneur. On peut rapidement jouer de façon récréative, mais si on veut aller dans un plus haut niveau, là, ça devient très dispendieux. Une citation d'Anne-Renée Thibault, directrice générale chez Parasport Québec. Le para-athlète est rendu à la moitié de son objectif de sociofinancement. Je suis content qu'il y ait du monde qui m'aide, se réjouit-il. Les personnes en situation de handicap sont souvent confrontées à des factures salées. Les choses adaptées, ça coûte cher, résume-t-il. Les défis du transport. En plus des coûts, le simple fait de devoir se déplacer peut s'avérer être un défi. Le transport est un gros problème, surtout pour les jeunes en chaise roulante, et surtout l'hiver, c'est encore plus difficile, estime Jean-Philippe Nadeau. Dans certains cas, on constate qu'il y a une demande et des ressources, mais malheureusement, les plateaux sportifs ne sont pas accessibles. « Ce n'est pas possible pour les personnes en situation de handicap de s'y rendre », révèle Anne-Renée Thibault, directrice générale chez Parasport Québec. Dans la province, le soccer en fauteuil roulant est surtout pratiqué dans la grande région de Montréal et à Lévis, entre autres parce qu'il peut être compliqué pour les gens de Québec de s'y joindre. Il y a des jeunes qui voulaient venir de Québec, mais le transport est compliqué. Il faut qu'ils se rendent à Lévis. Après, c'est le transport de Lévis qu'il faut qui les reprend sur la rive sud. C'est un peu n'importe quoi, observe l'entraîneur de l'ASCO. Engouement à capter. L'organisme Parasport Québec constate tout de même une hausse de la fréquentation depuis les deux dernières années, coïncidant avec la fin de la pandémie. Ces activités ont notamment permis de rejoindre près de 4000 personnes en 2024. C'est trop important le sport, c'est trop bon pour la santé, on le sait, puis on veut vraiment apporter cette cause-là de notre côté, soutient Anne-Renée Thibault. Mais selon la directrice générale de Parasport Québec, des défis demeurent, notamment sur le plan financier, malgré l'aide récente de Québec. On sait de quoi l'économie a l'air en ce moment, alors on ne s'attend pas à avoir plus d'argent pour des subventions pour acheter de l'équipement, relate-t-elle tout de même sans se faire d'illusions. Entre-temps, les personnes impliquées tentent de trouver des solutions pour capter l'engouement du moment. On essaie de développer une plus grande concertation avec tous les artisans du milieu et des collaborations plus systématiques pour justement enrayer ce frein à la participation qui est l'accessibilité à des activités, souligne Anne-Renée Thibault. C'était « Les coûts et les déplacements comme frein d'accessibilité au parasport », un texte d'Éric Chouinard paru le 9 février 2025 dans Ici Québec.